Bonsoir, comment allez-vous? Je lisais dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, que les Français consommaient 7,5 kg de chocolat par tête, par estomac plutôt, et par an. Bon, on s'en fout un peu en fait, car on ne se rend pas compte. Sauf si on calcule. 7 kg par an, ça ferait 500 grammes par mois si l'année avait 14 mois. Comme elle en a 12, ça fait 580 grammes, merci Marjorie. Presque 6 tablettes par mois, soit une tablette et demie par semaine. C'est pas mal, hein? Pourtant, les Allemands consomment bien plus. Ils sont à plus de 2 tablettes par semaine. Une le mercredi, une le dimanche, à manger tout seul, sinon ça fausse les calculs. C'est beaucoup si on rajoute les traditionnels, le bière et saucisses. Ah si, je suis désolée, ça marie très bien, l'amertume de la bière et le fumé de la saucisse avec le chocolat. Si c'est du vrai chocolat, bien sûr, avec du bon cacao et du vrai cochon qui court, pas un martyr. Parce que dans un cochon élevé sur du béton, rien n'est bon.
Bonjour, je m'appelle Colin, j'ai 5 ans et demi, je voudrais savoir si les cochons courent vite. Au revoir.
Nicolas Braic.
Bonjour.
Bonjour. Alors, ces cochons, courent-ils vite?
Eh oui, les cochons, en fait, lorsqu'ils sont jeunes, ont une capacité de fuite qui est très importante. En fait, jusqu'à l'âge de l'adolescence, ils peuvent atteindre des vitesses autour de 35 à 40 km heure.
Non, si vite que ça?
Pour éviter les prédateurs.
Ah bah dis donc Colin, tu imaginais peut-être pas ça?
Voilà, mais par contre, après, lorsqu'ils deviennent plus âgés, ils sont toujours aussi rapides à la détente, au sprint. C'est très impressionnant de voir un cochon assez massif, la vitesse avec laquelle il peut se déplacer en un court laps de temps. Mais il va quand même moins être résistant sur l'effort à la longue.
Nicolas Braille, qui est le prédateur du cochon?
Alors le prédateur du cochon, cochon sauvage, hein, il ne faut pas confondre sanglier et cochon sauvage. Nous, on élève des cochons domestiques, mais qui sont issus de branches sauvages, hein, cousins du sanglier, n'ont, entre guillemets, plus de prédateurs. Même en groupe, avec la défense des mâles, ce qu'on appelle les véras, ils n'avaient très peu de prédateurs. On estime certainement les ours. Et puis, il y a très longtemps, les tigres à dents de sabre.
D'accord.
Alors, l'humain fait partie de ces prédateurs. Mais il est très sûr de sa force. Un papa cochon est très, très sûr de sa force. Il ne faut pas l'embêter.
D'accord.
Il ne faut pas embêter ses petits.
Ah oui, sinon ils chargent carrément.
Ils sont très protecteurs. Alors, les mamans aussi. Peut-être plus proche, mais le papa cochon, lorsqu'il y a une attaque massive, peut aller jusqu'à se sacrifier. On a
ah
le
oui.
même comportement que chez les gorilles. Et moi, j'ai cette chance, je travaille avec l'INRA, avec Jocelyne Porcher, et on a pu faire des études comportementales, et on s'est aperçu que les cochons étaient en caste familiale et extrêmement attentifs à chaque personne dans le groupe. On a vraiment des animaux très intelligents qui, à l'âge adulte, ont à peu près l'âge mental d'un enfant de 8 ans.
On ne le sait pas, hein?
Et non, on ne sait pas tout ça, parce qu'on l'a malheureusement mis un petit peu en case, et on ne l'observe pas assez dans ses conditions naturelles, et donc il ne peut pas exprimer l'ensemble de ses capacités.
Donc il court vite principalement pour défendre ses petits?
Alors les petits courent vite pour se rapprocher le plus rapidement ouais. possible des gros,
ouais.
et les gros, eux, sont très rapides et très attentifs. On a des formes de protection en cercle. Un petit peu comme les tricératops, on a fait des projections. Tous les animaux qui défendent leurs petits, qui sont sur des castes familiales, ont cette défense en cercle.
Donc ils mettent les petits au milieu et les
mères
autour.
Et les pères après. Et en fait, moi, j'ai essayé de reproduire ça dans leur logement. J'ai fait des villages de cabanes en cercle.
Et ça leur plaît.
Et ça leur plaît. Ça fonctionne. Et les papas dorment à l'entrée. Et les mamans et les petits sont à l'intérieur.
Ça se visite?
Ça se visite, il faut réserver, on reçoit des écoles, on reçoit beaucoup de personnes. Et c'est vrai que c'est important de montrer aux enfants qu'il y a des élevages comme ça.
Le site de Nicolas Braic est bien entendu sur le site des petits bateaux. Nicolas Braic élève des cochons. Pour vous donner une idée de la façon dont il les élève, chez lui, chaque cochon a à sa disposition un espace grand comme un terrain de football. Alors, ce soir, nous parlerons du Moyen-Âge qui, figurez-vous, a duré 1000 ans, avec l'historien Michel Pastoureau. Et puis, nous parlerons également de champignons et d'oiseaux migrateurs. Vous connaissez bien dans les petits bateaux, parce que nous l'écoutons et nous l'aimons depuis longtemps, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.
Bonjour, je m'appelle Tom. J'ai 7 ans et je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que l'âme. Merci, au revoir.
Bonsoir Tom, Boris Cyrulnik, vous avez 3-4 minutes, pas plus, pas une seconde de plus, pour répondre à la question de Tom.
Alors, c'est une question fondamentale et les enfants sont terribles parce qu'ils posent toujours des questions fondamentales. Alors, la réponse la plus simple, c'est que l'âme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir et qui pourtant nous habite, habite au fond de nous et remplit un immense espace du dedans. C'est-à-dire que l'âme, on peut pas la mesurer, on peut pas la voir, on peut pas la peser, et pourtant on y répond sans cesse. C'est le monde du dedans. Et ce monde du dedans, il est rempli par des idées, par des affections, par des choses qu'on peut pas mesurer, et qui pourtant font notre vie psychique, notre vie mentale, qui est la caractéristique de la condition humaine. Et on parle d'âme. Au Moyen-Âge, on se demandait si les insectes avaient une âme.
Si les femmes ?
Alors, les femmes ont une âme de justesse. Hein. Mmh. C'est-à-dire que les insectes, oui, ils avaient une âme puisqu'ils bougeaient. Ah. Et il y a eu un concile pour savoir si les femmes avaient une âme. Mais il y a eu aussi une disputation, la disputation de Valladolid, pour savoir si les Indiens avaient une âme. Et là aussi, ils ont eu une âme de justesse. Et ça change beaucoup de choses, parce que dès l'instant où on accorde l'âme à un autre, on lui parle comme à quelqu'un qui a un monde du dedans, qui nous intéresse, qui nous étonne, qui nous irrite, mais dont il faut tenir compte. Donc le fondement de la morale apparaît, je dois tenir compte de l'existence de votre âme. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut atteler, comme on l'a fait pour les Indiens. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut dépecer, comme on le fait pour le gibier. Vous avez une âme, je dois donc vous considérer comme une personne et tenir compte de votre existence.
Le dernier livre de Boris Cyrulnik s'appelle « Ivre, paradis, bonheurs héroïques » et comme les autres, il est édité chez Odile Jacob.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es?
Stromae, c'était Papa Outé en un mot.
Les petits bateaux sur France Inter.
Guilhem Le Saffre est administrateur du Centre ornithologique d'Île-de-France. Il a écrit beaucoup de livres sur les oiseaux. Un des derniers est édité chez Rustica. Il s'appelle Les oiseaux enchanteurs.
Bonjour, je m'appelle Arthur et j'ai 6 ans. Et je voudrais savoir pourquoi les oiseaux migrateurs volent en V. Bisous.
Bonjour, je m'appelle Leïla, j'ai 10 ans. Je voudrais savoir pourquoi, quand les oiseaux voyagent, ils forment un V. Merci.
Bien observé, Arthur et Leïla. Guilhem Le Saffre, qu'en pensez-vous ?
Mais je pense que ces enfants, Arthur et Leïla, sont observateurs. Ils ont remarqué que les oiseaux migrateurs volaient en V. Et c'est tout simplement pour ne pas se fatiguer. Alors, il faut savoir que quand on vole, on se heurte à l'air. L'air offre une résistance. Et le premier du groupe, celui qui vole à la pointe du V, est celui qui se donne le plus de mal. Et les autres derrière, eh bien, ils se font un petit peu aspirer, comme disent les coureurs cyclistes. Donc c'est un petit peu moins fatigant pour eux. Bon, de temps en temps, celui qui est devant est un petit peu trop fatigué. Par conséquent, il va céder sa place à ceux de derrière. Et c'est une espèce comme ça, d'équipe finalement, qui fend le ciel.
C'est absolument génial. C'est alors, juste génial.
Et oui, ça a été découvert et, bon, évidemment, les anciens observateurs avaient déjà remarqué, les Grecs, les Romains, remarquaient déjà que les oiseaux volaient en V, mais ils n'avaient pas compris pourquoi. Et il aura fallu attendre des études assez récentes pour avoir la certitude que c'était bien ça. Des chercheurs se sont penchés sur ces phénomènes d'aérodynamique et ont bien montré qu'il y avait une sérieuse économie d'énergie quand on volait derrière un équipier.
C'est génial, Guilhem Le Saffre, à deux niveaux. Au niveau physique, en plus je pense que l'écartement ou l'ouverture du V doit aussi correspondre à des histoires d'économie d'énergie, comme
exactement.
Vous dites.
La place de chaque oiseau est dictée justement par les règles de pénétration dans l'air.
Et c'est également génial au niveau social, parce qu'il faut quand même s'organiser pour qu'il y ait quelque chose d'équitable, en disant toi tu vas devant pendant un certain temps, puis tu retournes derrière, qu'il n'y ait pas toujours le même devant et le même derrière.
Voilà, mais l'organisation n'est pas aussi stricte, si vous voulez. C'est-à-dire que, véritablement, lorsque le premier oiseau est fatigué, il se contente de ralentir un petit peu, de décrocher et de passer en position derrière, si vous voulez.
Merci Guilhem Le Saffre. Finalement, les oiseaux migrateurs font comme les vacanciers humains, sauf que eux vont au soleil en hiver et nous en été. Et puis chez les oiseaux, il me semble que tous les individus d'une même espèce voyagent. Il n'y a pas ceux qui partent et ceux qui restent. Et ils voyagent tous à la même enseigne, il n'y a pas des premières et des deuxièmes classes. Bien que...
Bonjour, je m'appelle François, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi certains champignons ont des lamelles, d'autres ont des tubes et encore d'autres ont des aiguilles. Merci.
Ouh là là, Aurélie Gousset, est-ce qu'il a raison ?
Alors en fait, on a des champignons qui présentent des lames et des lamelles, des champignons qui vont présenter des tubes et des pores, et des champignons qui vont présenter des aiguillons.
Donc trois familles de champignons. Comment ça s'organise alors ça,
alors Aurélie ? Il a très bien observé, en fait, toutes ces structures, lames, tubes et aiguillons, en fait, on les retrouve sous le chapeau du champignon. Ce chapeau de champignon, en fait, il appartient à ce qu'on appelle un sporophore. C'est une structure qui va porter les spores, donc c'est une structure qui permet aux champignons de faire de la reproduction sexuée. Le champignon, il le fait parce que il veut survivre. Il va synthétiser des spores, et donc ces spores, c'est ce qui va permettre de donner des nouveaux champignons par la suite. Ces spores, elles sont fabriquées au niveau d'une structure spécifique qu'on appelle une surface fertile, qu'on appelle également l'hyménium. Et donc c'est cet hyménium qui peut prendre différents types de formes. Et donc cet hyménium, en fait, pourquoi est-ce qu'il présente des formes particulières ? Eh bien c'est tout simplement pour essayer de maximiser sa surface. Tous ces champignons, en fait, lorsqu'ils vont commencer à pousser, sont tout petits sous une forme d'œuf. Et dans la forme d'œuf, la taille de cette surface fertile est déjà déterminée. Et donc, ça veut dire que la surface ne va plus grandir. Et si la surface ne grandit plus, ça veut dire que le nombre de spores qui peut être produit va être réduit. Et donc, la ruse qu'ont trouvé les champignons, en fait, c'est de créer des modifications de cette surface fertile, donc des repliements sous forme d'aiguillons, sous forme de pores, sous forme de lames, pour augmenter la taille de cette surface fertile et donc ainsi permettre la fabrication de beaucoup plus de spores.
Ça se pratique comment, cette reproduction sexuée avec donc ces spores supplémentaires, on peut appeler ça comme ça, non ?
Elles sont pas supplémentaires, en fait. C'est-à-dire qu'avec tous les replis, en fait, ça va permettre d'avoir plus de cellules qui, chacune, vont pouvoir fabriquer des spores. Et donc, par exemple, chez les champignons qui ont des lames, des pores et des tubes. On a ce qu'on appelle des basides. Alors, c'est des cellules qui vont porter les spores. Et donc, elles peuvent en porter 4 par cellule. Donc, plus il y a de basides, plus ça va permettre de fabriquer des spores.
Ils sont gros, les spores ?
Oh, c'est tout petit. Une tête d'épingle, c'est un monstre à côté, voilà.
Donc vous les voyez qu'au microscope ?
On ne les voit qu'au microscope, et ces spores, elles nous permettent de déterminer l'espèce de champignon, parce que elles ont donc tout autour une paroi qui les protège, avec une ornementation de la paroi. Donc des petites pustules, des petits pics, et donc chaque espèce de champignon va avoir une ornementation de la paroi qui va être particulière, et donc au microscope, eh bien, on va pouvoir regarder à quelle espèce on a affaire.
C'est merveilleux, le monde des champignons. Aurélie Gousset les adore, les champignons. Elle est enseignante-chercheure en mycologie, biologie végétale et écologie à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. System Only Dreams in Total Darkness par The National. C'est ce qu'il a, mon accent. Je vois pas pourquoi on me reproche toujours mon accent. Michel Pastoureau ne m'a fait aucune réflexion. Il est historien, spécialiste du Moyen-Âge. Il a écrit, entre autres, Le Bestiaire du Moyen-Âge, édité au Seuil, et aussi Rouge, Histoire d'une couleur, toujours au Seuil.
Bonjour, je m'appelle Axel et j'ai 8 ans. Qui peigne les livres au Moyen-Âge ? Au revoir et merci.
Oui, le Moyen-Âge dure 1000 ans, Axel, tu sais. Donc les choses changent au fil du temps. Mais les livres du Moyen-Âge sont toujours des livres manuscrits, pas imprimés. Donc chacun n'existe qu'en un seul exemplaire. Ils sont fabriqués avec soin, cela prend du temps. Au début, c'est dans les monastères qu'on les fabrique. Donc ce sont des moines qui peignent les images que l'on trouve dans les livres et qu'on appelle des miniatures. C'est fait tellement lentement qu'un moine peint une dizaine d'images pendant une année. Et le support, ça n'est pas le papier, c'est le parchemin, c'est-à-dire une peau d'agneau ou de mouton que l'on a préparée pour écrire et peindre. Puis, plus on avance vers la fin du Moyen-Âge, plus on produit des livres, parce qu'il y a une grande demande, et donc des ateliers spécialisés se créent dans les villes, et là, ce ne sont plus des moines qui peignent, mais des peintres spécialisés dans la peinture de livres, on les appelle les enlumineurs. Nous savons même qu'il y avait des femmes qui étaient enlumineuresses. Et la production s'organise, le travail dans l'atelier se diversifie. Donc pour faire une miniature, il n'est pas rare qu'il y ait plusieurs intervenants, avec le dessinateur, le spécialiste de l'or, le spécialiste des rouges et des bleus, le spécialiste du décor secondaire. C'est presque déjà une production industrielle à l'horizon de la fin du Moyen-Âge. La page que vous regardez date du XIIIe siècle, donc c'est déjà une époque où l'on est bien organisé. Donc dans cette page, c'est un manuscrit de qualité, en plus ambitieux, il y a plusieurs intervenants, au moins deux pour l'écriture, peut-être trois pour le dessin et la peinture. Ça demande des moyens, du temps et une diffusion.
Au Moyen-Âge, il y a beaucoup d'or.
Dans les manuscrits de luxe, il y a beaucoup d'or et la façon de poser l'or, d'ailleurs, est différente selon qu'on dépense beaucoup d'argent, un peu d'argent, pas d'argent du tout. L'or est au fond moins rare que l'argent au Moyen-Âge, enfin pour la plus grande partie du Moyen-Âge. L'argent coûte très très cher en tant que métal précieux. L'or, un peu moins, il y a un grand commerce de l'or qui vient d'Asie centrale et d'Afrique du Nord, donc l'Occident utilise beaucoup d'or. Malheureusement, l'or, j'en ai fait l'expérience dans mes livres, c'est très difficile à photographier. L'or n'arrête pas la lumière, l'or n'est jamais bien reproduit dans les livres.
Michel Pastoureau, quand on a commencé à imprimer, on a imprimé des lettres. Et les dessins, comment ça se passait?
Les images étaient gravées sur bois. La gravure sur bois est antérieure à l'apparition de l'imprimerie et du livre imprimé. Et donc, dans le livre imprimé, on a placé des images gravées sur bois qui pouvaient être reproduites en un assez grand nombre d'exemplaires. Et au début, on les a aquarellées, enluminées, comme on le faisait dans les livres manuscrits. Et puis, peu à peu, on s'est fatigué de peindre individuellement chaque exemplaire du livre imprimé. Et donc, il y a une période au XVIe siècle où les images sont en noir et blanc, ou très souvent en noir et blanc. C'est une véritable révolution parce que toutes les images du Moyen-Âge, dans les livres et hors des livres, sont des images polychromes et la majorité des images de l'époque moderne sont des images en noir et blanc. C'est une grande mutation culturelle et de sensibilité.
Les petits bateaux, c'est terminé pour ce soir. C'était une rediffusion du 16 octobre 2016. Vous pouvez organiser vous-même vos rediffusions en podcastant l'émission ou en allant sur le site des Petits Bateaux via le site de France Inter ou en achetant le livre Les Petits Bateaux édité chez Pocket, un livre de poche. Bon, j'ai cité trois fois Les Petits Bateaux, vous aurez donc bien compris qu'il s'agissait de l'émission Les Petits Bateaux. Je ne vous donne pas le numéro du répondeur qui lui aussi a pris ses quartiers d'été pour revenir en septembre. Marjorie Devoucou, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chessou.